La proclamación de independencia en su
canal. Les podcasts d'Opuscule, ce sont les récits d'un monde résolu. Un monde parallèle.
Un monde d'anticipation.
Demain, c'est le deuxième dimanche du mois, et les assemblées du troisième et du quatrième cercle se tiendront. Le quatrième, c'est le cercle un peu charnière parce qu'à ce stade, chaque assemblée représente plus de 300 foyers fiscaux. Oh, certes, tous les citoyens de la ville ne prennent pas encore part à ce système d'organisation. Certains préfèrent rester ancrés dans leur habitude de se dédouaner de toute responsabilité. Et d'autres y sont même carrément opposés. Ainsi, notre assemblée regroupe des représentants d'un territoire un peu plus large que ce qu'il devrait être. Mais dans tous les cas, avec 300 foyers fiscaux, on est loin de connaître tout le monde personnellement. Les projets portés doivent donc être beaucoup plus construits et anticipés, argumentés et documentés. Chaque règlement que l'on propose doit être mûri, bénéfique pour la collectivité et non pour un groupe de personnes au détriment des autres. C'est logique, c'est sain, et c'est bien là l'esprit de cette organisation. Ce n'est pas parce qu'on s'auto-organise que l'on prend les choses à la légère, bien au contraire. Chacun ressent la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Sa voix compte, et il doit peser dans son vote l'avis de dizaines d'autres personnes qui ne manqueront pas, eux, d'écouter l'enregistrement ou lire le compte-rendu de l'Assemblée. C'est encore plus tangible au 5e et 6e cercle. Tous les citoyens impliqués dans ce système d'organisation suivent par Internet ou réécoutent les interventions lors de ces assemblées qui décident des orientations de la ville. Gare aux représentants qui usent de sa voix pour ses besoins personnels, lorsqu'il est à contre-courant de la vie de ceux qu'il représente. D'ailleurs, à chaque assemblée de chaque cercle, si un représentant s'abstient lors d'un vote, le vote est alors suspendu et l'on fait appel à tous les citoyens qu'il représentait pour voter. Une sorte de référendum local et sélectif. Cela n'arrive pas souvent jusqu'au 5e cercle, mais beaucoup plus fréquemment lorsque les enjeux dépassent la responsabilité individuelle que veut accepter un représentant. Il n'est donc pas rare qu'à la fin du mois, après l'assemblée du 6e cercle, nous ayons à voter pour ou contre tel projet. Bien entendu, pour l'instant, cette organisation par assemblée existe en parallèle des instances traditionnelles de la municipalité. Le conseil municipal se réunit toujours, mais son vote est de plus en plus rarement en opposition franche aux décisions prises lors du 6e cercle. Le conseil municipal s'est en fait plutôt transformé en gestionnaire financier et en contrôleur. Il a en quelque sorte un droit de regard sur les décisions qui sont prises, et surtout la manière de les mettre en œuvre. Il alloue les budgets et vérifie qu'il n'y a pas de dérapage. Et il évalue les risques d'avoir des ennuis avec le pouvoir jacobin centralisé. En réalité, il y a plusieurs profils. Les conseillers municipaux de la majorité soutiennent pratiquement tous cette expérimentation démocratique, comme ils la nomment publiquement, et sont souvent en parallèle très investis dans les assemblées en lesquelles ils voient un progrès démocratique. Les plus critiques sont ceux qui envisageaient une carrière politique professionnelle. Eux ne voient évidemment pas d'un très bon œil le rôle de représentant tel qu'on le pratique, et le fait que la place n'est jamais assurée d'un mois à l'autre. C'était d'ailleurs les premiers à proposer au cercle la nomination des représentants pour 6 mois et une indemnisation. Deux propositions qui ont été déboutées sans appel par référendum après un mois de débat public dans les agoras de la ville et surtout au casier. Et puis il y a les conseillers de l'opposition qui, pour beaucoup d'entre eux, enragent littéralement. Ils en ont appelé au préfet, au ministre de la cohésion des territoires, voire même au ministre de l'Intérieur. Certains ont leurs petites entrées au Sénat, à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, la situation est telle partout dans le pays que personne n'a pris au sérieux des individus qui font sécession de manière citoyenne, sans verser le sang et en respectant finalement les lois de la République, puisque nos assemblées n'ont aujourd'hui aucune valeur réelle à leurs yeux. Nous nous sommes placés en parallèle et non en opposition. Ils se disent probablement que ça nous passera. Et c'est peut-être vrai, mais de fil en aiguille, d'autres villes et villages du département observent les transformations qui s'opèrent ici, et plusieurs initiatives ont été prises pour rebâtir chez eux un modèle assez similaire, voire identique au nôtre. C'est encore embryonnaire, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve. En attendant, il se peut que l'on ait le temps de retrouver la démocratie dans ce pays, que les gens y prennent goût et finissent par refuser d'obéir aux injonctions d'un pouvoir qui les a trahis. C'est l'occasion de répondre à la crise sociale et à la pauvreté galopante. C'est l'ultime occasion de tenter de faire face concrètement au changement climatique. À ce sujet, je pense que l'un des moyens de s'en sortir, c'est de remettre des forêts dans la ville. De vraies forêts, petites mais efficaces. Il existe une association qui liste des documents concernant la méthode Miyawaki. Elle s'appelle « Semeur de forêts » et a acheté un terrain pour y planter une forêt primaire dense qui servira de refuge naturel. Pas une forêt d'agrément, non, ni de production. Un espace que l'on rend à la nature, comme un remède aux maux qu'on lui cause par ailleurs. Ils ont traduit la documentation d'Aforest, une entreprise indienne dont le but principal est la multiplication de ces forêts, et qui explique pas à pas la reproduction de la méthode.
Pris de panique, lors de la tempête, les promeneurs s'abritent et se couvrent la tête à l'affût d'une accalmie entre deux rafales de vent. Ceux qui tentent une traversée espèrent en revenir vivants. Et d'autres pleurent leur charme d'antan. Déchaînés, les bourrasques font danser les branches. En d'autres temps, à contre-temps, ce sont les hommes qui se déhanchent, s'agitant dans les rues, au retour du printemps. Midi s'annonce par les cloches de la cathédrale, ajoutant au tumulte le son d'un glas monumental. Remuantes et retorses, rétives à la raison, ramures criblant la terre de leurs fruits de saison. Opérations militaires pour reprendre la place, nuées de munitions acérées sifflant à leurs oreilles. Nombre de passants enjambent les carcasses, ils se faufilent entre les voitures en se méfiant du ciel. Entends-tu le cri de révolte de ce Cassandre impuissant, résonnant dans les ténèbres comme un avertissement? Sur la place, une dernière sommation, avant que ne pleuvent les gaz et les marrons.
J'ai trouvé une étude de 2011 en ingénierie écologique. Les auteurs ont testé la méthode Miyawaki en comparaison avec un site de reboisement planté selon les méthodes habituelles dans un contexte de climat méditerranéen.
Zoé était présente à l'Assemblée la semaine dernière et m'a proposé de l'aide pour étoffer le dossier en fouillant dans les publications scientifiques. Elle est chercheuse et a accès aux sites spécialisés.
C'est un lieu en Sardaigne, je crois, où ils disent que d'autres méthodes de reboisement ont échoué et que la désertification menace la région. Ce n'est pas le même climat qu'ici, bien sûr, mais c'est intéressant parce que les résultats précédents de la méthode Miyawaki avaient été observés sur des zones à forte précipitation. Je ne sais pas si on peut dire que notre région se situe entre les deux, mais le climat méditerranéen est probablement plus aride, donc plus stressant pour les arbres plantés.
Ah, génial! Et alors, qu'est-ce qu'ils disent?
Il conclut que la méthode Miyawaki fonctionne clairement mieux que les méthodes de plantation classiques qui avaient été utilisées sur les sites témoins. Il y a toujours une perte de certains arbres au fur et à mesure du temps, tous ne survivent pas, mais moins que dans le cas d'un reboisement avec une méthode classique. La forêt a été plantée en 1997 et l'étude date de 2011. Il précise qu'ils ont malgré tout changé quelques paramètres de la méthode pour l'adapter aux besoins d'un climat plus aride. Si j'ai bien compris, Miyawaki préconise d'entretenir la forêt en supprimant les buissons qui s'invitent entre les arbres. Dans le cas de l'étude, ils l'ont moins fait, car le climat étant plus aride, le fait de garder les buissons permet de garder une meilleure humidité au sol et de réduire le stress hydrique pendant la saison estivale.
D'accord. Alors ça veut dire qu'il faut garder ça en tête et adapter la méthode en fonction du contexte ?
Oui, mais visiblement ça marche vraiment. Il y a une plus grande biodiversité, les arbres poussent plus vite et la forêt se crée assez rapidement. Alors qu'avec les méthodes conventionnelles, les tentatives de reboisement ont échoué.
Ah super, ça c'est vraiment une bonne nouvelle.
Et j'ai aussi trouvé une étude qui mesure l'impact des parcs sur la température dans les villes. Je te résume rapidement, l'étude a eu lieu en Chine, à Nankin. Ils ont mesuré par image satellite la taille et l'emplacement des espaces verts. L'étude montre que les parcs diminuent la température des îlots de chaleur urbaines. Et ceci d'autant plus que les parcs sont boisés. Une augmentation de 10% de la surface boisée dans les espaces verts correspondrait à une baisse de 0,83 degrés de la température au sol. Autre conclusion intéressante, l'étude conclut que si une surface boisée est morcelée en plusieurs îlots de verdure, ils peuvent eux aussi avoir un effet positif sur la température environnante.
Donc si je comprends bien, l'idée de favoriser l'implantation de plusieurs mini-forêts très denses pourrait avoir un effet bénéfique sur l'ensemble de la température de la ville ?
Oui, et cela peut aussi se conjuguer avec d'autres actions comme le changement de type de surface. Le bitume, par exemple, agit comme un capteur solaire qui irradie ensuite de la chaleur, de même que les vitres des bâtiments. Enlever une partie du bitume et diminuer l'insolation des bâtiments par différents types de pare-soleil peut y contribuer.
Et oui, et dans ce cas-là, en fait, les arbres peuvent aussi servir de pare-soleil, je crois. On s'en sert pour créer un peu d'ombre sur les bâtiments et permettre de diminuer la chaleur. Bon, eh bien écoute, ce ne sont que de bonnes nouvelles, en espérant que tout le monde soit aussi convaincu que moi. Mais c'est un projet qui vaut le coup, je pense. Zoé m'a donné quelques autres références d'articles. Il semble cependant qu'il n'existe encore que trop peu d'études sur cette méthode dans notre type de climat, et trop peu d'études sur l'impact de ces forêts sur la baisse des températures en ville. Les parcs et jardins traditionnels sont étudiés, mais je crois qu'aucun ne comporte de forêts densément peuplées. Or, si ces forêts ont de nombreux avantages et de nombreuses qualités, j'aurais aimé avoir plus de sources scientifiques précises à apporter pour défendre le projet. Je me prends à rêver de proposer à des chercheurs de créer un protocole sérieux pour mesurer l'impact d'une forêt que nous pourrions planter, afin de pouvoir transmettre aux autres villes les résultats de l'expérience et savoir si leur implantation est une véritable solution à l'augmentation de la chaleur dans les villes. Agir de manière efficace et réfléchie, mais aussi concrète et ambitieuse, loin des effets de communication et des mesures symboliques. Bâtir un monde raisonné. Voir les problèmes, étudier les solutions, et prendre les décisions qui servent l'intérêt général, et non la croissance du PIB. La chanson que vous avez entendue s'appelle « Place des marronniers ». Elle est issue d'un parcours en chansons acrostiches dans la ville de Bourges. Vous pouvez découvrir le parcours ainsi que le reste du projet sur le site web www.projetopuscule.com, mais aussi sur Facebook sur la page du projet Opuscule, ainsi que sur YouTube. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager pour le faire découvrir à d'autres personnes. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.